Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal du Droit et des Libertés, dirigé par Olivier Tournafon, diffusé en direct mardi 17 janvier 2017 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé mercredi 18 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, merci de votre fidélité. Nous allons toujours dans le cadre de cette émission Droit et Liberté aborder aujourd'hui un sujet qui fâche, surtout d'ailleurs les Parisiens, c'est la question des atteintes à la liberté de circuler, notamment à Paris, dans la région parisienne. Alors, je fais une petite introduction, je suis entouré de d'éminents spécialistes de la mobilité urbaine, nous allons dire. Il y a à côté de moi Xavier Péquin, avocat à la Cour, il y a le professeur Jean-Paul Morin, directeur de recherche à l'INSERM, docteur en sciences et chimiste. Il y a Monsieur Hériot, qui est représentant de la Fédération française des véhicules d'époque. Il y a Maître Éric de Caumont, très célèbre avocat, voilà, célèbre avocat qui s'est consacré à la défense des automobilistes persécutés. Et il y a un leader associatif qui est Monsieur Romain Epérou, qui a fondé une association qui s'appelle l'UDELSIM. Alors, c'est l'Union pour la défense de la liberté et l'égalité
de la liberté de circuler
motorisée, libre et motorisée. Oui, voilà. Alors, donc c'est un ensemble de spécialistes qui sont tous extrêmement compétents, et nous allons aborder deux sujets principaux. D'une part, la question des interdictions de circuler qui depuis hier frappent un certain nombre de véhicules, et d'autre part également la fermeture d'un certain nombre de voiries. On a vu déjà les voies sur berge qui ont été fermées il y a quelques mois, puis maintenant il s'agira des Champs-Élysées, de la rue de Rivoli, enfin bon, beaucoup de choses donc vont changer à Paris. Donc ça sera sans doute d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission, où nous recevrons, j'espère qu'il pourra se libérer, Monsieur Le Gallec, le maire du premier arrondissement, et puis également Maître du Colombier, que vous connaissez déjà, qui intervient souvent sur ces antennes. Alors, l'autre jour, un de mes amis avocats me disait: quand j'ai commencé mes études de droit, pour moi, le droit était synonyme de sécurité et de liberté. Hélas, aujourd'hui, je constate qu'il devient de plus en plus synonyme d'oppression. Et effectivement, il y a une dérive que j'ai toujours dénoncée sur cette antenne, et qui est le remplacement insidieux du droit, au sens noble, par une réglementation de plus en plus tatillonne, de plus en plus insidieuse et de plus en plus oppressive. Et là, nous avons deux exemples physiques, concrets, de cette dénaturation du droit dans une prolifération de normes qui viennent perturber jusque notre vie privée. Et fort heureusement, je ne suis pas le seul à le penser. Il y avait dans le Figaro d'hier un article extrêmement intéressant d'un de mes collègues, Olivier Babot, qui est professeur lui aussi. Il disait, alors son article s'intitule « Quel État voulons-nous ?» Il disait: ce faisant, la France s'achemine vers ce despotisme démocratique doux, prévu avec une stupéfiante lucidité par Tocqueville. C'est toujours prétendument dans l'intérêt des populations et de leur bonheur qu'est mis en place le contrôle social le plus étroit et que sont multipliées les mesures liberticides. Il n'y a désormais virtuellement plus aucun aspect de notre vie qui ne fasse l'objet d'une intervention de la puissance publique. Mesure-t-on assez que cette extension sans fin de la place de l'État fait de la France, au sens propre, un régime totalitaire ? rendant poreuse la frontière entre démocratie et dictature. Vous voyez, donc c'est une préoccupation qui est partagée par beaucoup d'intellectuels en France. Et l'auteur continue, il dit « En s'érigeant en gardien d'une morale déterminée en circuit fermé par un clergé de zélateurs stipendiés, l'État se fait religion. Alors il n'est plus qu'un simple instrument d'oppression aux mains d'une caste d'idéologues. » Vous voyez, c'est tout à fait juste. Je crois que là, Monsieur Babot est exactement dans le vrai. Je pense la même chose que lui. Alors, on va nous dire, ah oui, mais il y a la pollution. Alors c'est vrai, il y a la pollution. Bon, alors la pollution, on nous balance des chiffres terrifiants. 40 000 morts par an à cause de la pollution. La pollution serait 4 fois plus meurtrière que les accidents de voiture, dont on nous rebat les oreilles depuis 30 ans. Bon, 6 000 morts par an rien qu'à cause des voitures de plus de 20 ans, ai-je entendu l'autre jour d'un élu de la mairie de Paris. Bon, alors, j'aurais tendance à rappeler la phrase humoristique de Benjamin Disraeli, qui était le premier ministre de la reine Victoria, et qui a dit « La statistique est la forme moderne du mensonge ». Et puis, il y a aussi une citation de Winston Churchill qui m'amuse, il a dit « Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées ». Et je crois que là, il faut donc prendre conscience que dans cette bataille de chiffres absolument insensée, on est complètement pris en otage. Alors heureusement, la science pourra parler ce soir, puisque nous avons la chance d'avoir le professeur Morin à cette table, et qui est un chercheur spécialisé justement dans la question des pollutions et des émissions de particules, et il va pouvoir nous permettre de voir ce qui est vrai et de faux dans tout cela, parce que, bon, le malheureux peuple est incapable de faire la différence entre le vrai et le faux. Donc, pour tout dire que le mal progresse, parce que ce que nous critiquons au fond, c'est absolument pas la lutte contre la pollution, qui me paraît utile. Moi, j'ai rien contre la voiture à hydrogène. D'ailleurs, je vous dirais que en Paris, j'ai plaisir à me déplacer avec une trottinette électrique. Bon, alors pour le moment, c'est pas interdit, ça, mais peut-être qu'un jour, on va nous dire que c'est interdit aussi. Et du coup, il y a bien longtemps que je ne prends plus beaucoup ma voiture, qui est d'ailleurs très ancienne et de collection, parce que j'ai pas envie de piquer des crises de nerfs dans les embouteillages. L'autre jour, j'ai mis quand même 1h à 1h du matin pour aller de Radio Courtoisie à la place de la Nation. Bon, alors franchement, c'est pas agréable. Donc, il y a très longtemps que je utilise des moyens de transport propres et alternatifs, et je suis tout à fait conscient de l'importance très grande qu'il y a à lutter contre la pollution. Mais ce que je critique et ce que nous critiquerons, c'est d'abord la falsification des chiffres, ensuite la dénaturation et une méthode extraordinairement brutale qui est employée aujourd'hui par la mairie de Paris, qui dénote un mépris total du citoyen, une arrogance absolument incroyable. On vous dit Paris ne peut plus vivre à cause de la fermeture des voies sur berge. Eh bien, qu'à cela ne tienne, nous allons fermer les Champs-Élysées, la rue de Rivoli. Les gens ont besoin de leur voiture pour se déplacer, parce qu'il n'y a pas à Paris que des riches touristes milliardaires ou que des bourgeois bohèmes, ou que des fonctionnaires, ou que des acteurs bobos. Eh bien, à Castlantienne, on va interdire à toute une population qui vient de banlieue de venir avec sa voiture, parce qu'elle pourrait être polluante. Donc cette méthode sans concertation, brutale, dictatoriale, véritablement. Alors je ne sais pas si Madame Hidalgo se plaît à prendre le maire de maire au féminin de Paris, mais je pense que le titre de dictatrice lui serait encore beaucoup mieux. Je ne sais pas si ça existe dans l'histoire des dictatrices. Il y a des impératrices, mais il n'y a jamais eu vraiment de dictatrice. Hein. C'est une nouveauté finalement. Alors c'est cela que je critique. Bon, alors maintenant passons à des choses plus sérieuses et plus concrètes. Maître Pékin, qui est un éminent juriste, va faire très rapidement le point sur les actuelles interdictions de circuler, sachant que la deuxième partie de l'émission sera consacrée à la question de la fermeture d'un certain nombre de voies. Maître Pékin, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs voilà, ce qu'il en est ?
Je vais vous parler d'un arrêté qui doit être pris conjointement par la maire de Paris et le préfet de police de Paris, arrêté qui n'est toutefois à ce jour, pas encore publié, donc pas encore en vigueur, bien que l'on ait, au niveau de la mairie, communiqué sur la mise en place effective de la zone de circulation restreinte à Paris intramuros, à compter d'hier, lundi 15 juin. Donc, le nouvel arrêté, dont la publication est imminente, va créer une zone à circulation restreinte pour une durée de 5 ans sur l'ensemble des voies de la commune de Paris, c'est-à-dire à l'exception essentiellement du boulevard périphérique et des bois de Boulogne et de Vincennes. Comment cette mesure a-t-elle été rendue possible ? Il faut voir que l'on connaît les différentes restrictions, les premières qui sont intervenues à Paris à partir du mois de juillet dernier, avec le fait qu'il n'y avait pas de contrôle effectif qui soit possible. Il se trouve que, concomitamment à cet arrêté du 1er juillet 2016, un certain nombre de mesures gouvernementales ont été prises et qui rendent maintenant la mise en place possible d'un véritable contrôle et d'une gestion, si l'on peut dire, d'une zone de circulation restreinte. Pour bien le comprendre, il faut savoir que dans le code de la route, vous avez deux façons de classer les véhicules. Vous avez une première façon qui est traditionnelle, c'est-à-dire selon leur nature et leur usage. Vous avez, pour le code, les véhicules particuliers, les deux, trois roues, les quadricycles à moteur, les utilitaires légers, c'est-à-dire le poids total autorisé en charge à moins de 3,5 tonnes, et enfin, dans la même catégorie, poids lourd, autobus et autocar. Mais également, les véhicules sont distingués en fonction de leur niveau de pollution atmosphérique. Et vous avez le récent arrêté ministériel qui a été pris le 21 juin 2016 qui va créer 6 classes de véhicules selon leur niveau de pollution atmosphérique, et l'identification de ces véhicules se fait selon sa déjà fameuse vignette sécurisée appelée certificat qualité de l'air, en résumé la fameuse vignette critère qui est décrite donc dans le code de la route et qui va à ces 6 classes de véhicules voir correspondre 6 vignettes. Donc, vous avez une première classe qui est réservée aux véhicules qu'on appelle à zéro émission, véhicules électriques, les véhicules à hydrogène dont vous parliez, professeur. Et effectivement, les 5 autres vont regrouper les véhicules suivant leur ancienneté et leur carburant. Et puis, les plus anciens, qui sont réputés être les plus polluants, sont qualifiés non classés. Alors, maintenant, parlons de cette fameuse zone de circulation restreinte à Paris. Les modalités d'une zone de circulation restreinte et les sanctions en cas de non-respect des restrictions prévues par une municipalité sont fixées à un décret du 28 juin 2016, donc tout récent, et le projet d'arrêté de Madame la maire et de Monsieur le préfet nous indique que la zone à circulation restreinte parisienne va être interdite à compter donc du 15 janvier aux véhicules non classés, ce qui signifie que du lundi au vendredi, de 8h à 20h, sauf jours fériés, et pour les poids lourds, les bus et les cars, ce sera tous les jours sans exception, de 8h à 20h.
Alors je crois qu'il faut juste préciser aux auditeurs que les véhicules non classés pour les voitures particulières, ce sont tous les véhicules immatriculés avant 1997.
Alors concerne effectivement pour les... Parlons quand même bien sûr des deux roues, chers à certains ici. Donc c'est tout type jusqu'au 31 mai 2000. Et pour les véhicules, voitures utilitaires légers et ceci, c'est jusque au 30 septembre 1997, donc des véhicules de 20 ans.
Voilà. Ce qui est un peu contradictoire, puisque ces véhicules ont un contrôle technique qui les autorise à rouler.
Qui suppose qu'elles aient effectivement satisfait aux critères de pollution au moment où elles ont passé leur contrôle technique. Effectivement, c'est tout à fait exact. Donc pour terminer, vous voulez, donc cela concerne tous ces véhicules, à compter du 1er juillet, donc dans quelques mois, et c'est prévu de
durcissement,
l'interdiction va s'étendre aux véhicules de catégorie 5, c'est-à-dire les véhicules diesel, voitures particulières utilitaires légers, ceci jusqu'au pour les véhicules du 1er janvier 97 au 31 décembre 2000.
Alors, donc, il faut préciser que petit à petit, on remontera de plus en plus dans la liste. Et l'objectif de la mairie de Paris, affiché et clairement exprimé, c'est d'aboutir à une interdiction totale de tous les véhicules antérieurs à 2011. et peut-être même de tous les véhicules fonctionnant avec un moteur à explosion, mais ça, ça n'a pas été dit. Ça veut dire que ça représente un nombre de véhicules absolument énorme. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, après tout, bof, 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 c'est juste Paris. On sait, de toute façon, on peut déjà plus circuler dans Paris. Oui, mais l'ennui, c'est que ce n'est pas qu'une mesure prise par la mairie de Paris. Il y a une complicité active du gouvernement actuel, puisque, comme l'a très justement expliqué Xavier Pékin, cet arrêté municipal qui est en passe d'être publié fait suite au décret du 28 juin 2016 qui lui-même est la conséquence de la loi, je crois, de 2014 sur la prétendue transition énergétique qui permet la mise en position, la mise en place de ces zones à circulation restreinte qui ne seront pas limitées à Paris. Et là, chers auditeurs, si vous habitez la province, je vais vous effrayer parce que vous vous croyez peut-être à l'abri, mais pas du tout. Pas du tout. Actuellement, il y a déjà 25 communautés de communes représentant 750 villes, 750 villes, qui vont mettre en place un plan analogue tout aussi contraignant. Alors, je vous cite Avignon, je ne savais pas qu'Avignon était spécialement pollué, Arras, Annemasse, Bordeaux, Cannes, bon, oui, bon, je ne savais pas que c'était pollué, Cannes, Clermont-Ferrand, Champlain, Côte Basque, Adour, donc Bayonne finalement, donc on ne peut pas, non, Dunkerque, Dijon, Épernay, Faucigny, Glières, Bonneville, Grenoble, Lyon, Lille, Le Havre, Montpellier, Paris, bien sûr, on l'a vu, Reims, Rouen, Saint-Étienne, Strasbourg, Saint-Maur-des-Fossés, tiens, à côté de Créteil, Toulouse et la vallée de la Marne. Ça représente ces zones, donc ces 750 villes, doivent, dans les 5 ans qui viennent, mettre en place un plan analogue, avec interdiction des voitures de plus de 20 ans, et puis très vite des voitures antérieures à 2011. Et ce sont des zones qui couvrent quand même plus de 18,4 exactement millions de personnes. C'est-à-dire que c'est un tiers du territoire français. Alors, une fois que ça sera mis en place, on vous dira, bon, bah allez, au point où on en est, allez, tout le territoire national. C'est-à-dire que ça sera interdiction absolue de rouler partout. Donc, vous voyez, ce que j'avais toujours dit, depuis 2013, où je suis dossier, la tache d'huile est en train de s'étendre. Bien. Alors, vous allez dire, mais quid des véhicules de collection ? Bonne question, effectivement. Alors, les véhicules de collection, il y en a deux types. Il y a les véhicules qu'on pourrait appeler collectionnables, qui ont entre 20 et 30 ans, et qui sont encore en carte grise normale et qui n'ont pas d'autres titres de circulation possibles. Et il y a les véhicules véritablement de collection, qui, eux, peuvent prétendre à une carte grise dite de collection. Et là, je vais laisser la parole à Laurent Herriot, qui est le directeur de la Fédération française de véhicules d'époque, qui va nous expliquer comment sa fédération a réussi à obtenir, et il faut l'en féliciter, justement une dérogation absolument indispensable pour ces fameux véhicules historiques. Laurent Herriot, merci d'expliquer cela à nos auditeurs.
Mais avec plaisir. Écoutez, on a commencé à travailler sur ce dossier en 2014, donc ça fait 2 ans avant la promulgation de l'arrêté municipal de juillet 2016. Et je dois dire que les premiers rendez-vous n'avaient pas été très faciles. On a en fait travaillé avec celui qui est en charge de mettre en place la décision politique, puisqu'on peut l'appeler comme ça, Dan Hidalgo. C'est Didier Bailly, qui est directeur de la voirie de la circulation à Paris avec ses équipes. Et il nous a fallu montrer patte blanche, c'est-à-dire, messieurs, de quoi parlez-vous ? Et surtout, de combien parlez-vous ? Et c'est vrai qu'on a pu montrer des chiffres, et on s'est surtout forcé à illustrer notre non-impact sur l'environnement, sur l'accidentologie, sur la mobilité, au nom d'un critère très simple, c'est le kilomètre parcouru. C'est-à-dire que, bah, clairement, nous, on roule pour notre plaisir. La carte grise de collection existe maintenant depuis plus de 30 ans. Elle n'a que des avantages, sauf, et même c'est pas sauf, c'est un argument, elle perd sa notion dite d'usage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller travailler tous les jours, on ne peut pas exercer une activité professionnelle avec un véhicule en carte grise de collection. Et donc, partant de ce constat, de ce fait, on a montré des chiffres. qui sont issus du ministère des Transports. Quand je parlais d'accidentologie, de mobilité, on n'est même pas dans les statistiques. Un véhicule de collection, en carte grise de collection, en moyenne, fait bon an mal an, moins de 1000 km par an. Bon, vous connaissez tous la moyenne du kilométrage par an d'un véhicule d'usage normal, qui tourne autour de 15 000 km. Bon, clairement, il n'y a pas photo. À partir de là, on a pu considérer, enfin, notre demande a été considérée comme recevable. Mais ça a quand même été presque 2 ans de discussion.
Oui.
De recoupement, de voilà,
oui. Alors, donc,
avec des statisticiens, enfin bref.
Il faut tout de même rendre hommage à l'efficacité de la Fédération Française de Véhicules de l'époque et sa pugnacité, parce que moi-même, genre, dans les années 2012-2013, j'avais tiré la sonnette d'alarme auprès d'un certain nombre de clubs. À l'époque, les associations de défense comme l'UDELSIM n'étaient pas encore constituées, et je m'étais heurté à l'ironie majoritaire, haussement d'épaules. On m'avait traité d'excité, de pessimiste chronique, d'agité du bocal, que non, mais ce serait pas possible, mais jamais de la vie, mais pas du tout, mais enfin voyons, c'est pas sérieux. J'avais voulu même organiser quelque chose, on n'avait même pas voulu y participer. Et ben voilà, maintenant nous sommes au pied du mur. Bon, alors heureusement que la FFVE, elle, qui est constituée de gens très sérieux, a pris le taureau par les cornes, et ça a permis d'avoir cette dérogation. Alors le seul petit bémol, tout de même, et ça avec Xavier Pékin, nous l'avons observé, bon, il y a la dérogation qui est dans l'article 3 du projet d'arrêté, qui va être publié prochainement, sauf que, il y a quelque chose, un petit bémol, c'est que il est marqué que la dérogation est accordée pour une durée de 3 ans. C'est dans l'article 3. Alors d'ailleurs, à toute une série de véhicules, il n'y a pas que les voitures de collection qui sont exonérées pour 3 ans. Par exemple, il y a les véhicules affectés aux associations agréées de sécurité civile, aux véhicules des professionnels effectuant des opérations de déménagement munis d'une autorisation. Alors on se demande, s'ils ont une autorisation, on se demande pourquoi il y a une dérogation du reste. Aux véhicules d'approvisionnement des marchés parisiens, mais là aussi ils ont une dérogation déjà ad hoc. Aux véhicules frigorifiques, aux véhicules citernes, aux convois exceptionnels, aux véhicules... Alors, nous, on fait partie, parce que moi aussi je suis collectionneur, des véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention collection. Pourquoi cette limite de 3 ans ? Bon, évidemment, ça va être renouvelable. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Hériot ?
Ben, je sais pas que je pense, c'est que je constate qu'entre l'arrêté promulgué le 29 juin 2016 et celui qui est en préparation, les articles ont changé.
Ah ! Voilà.
C'est-à-dire que la dérogation que nous avions obtenue l'année dernière n'était pas conditionnée à une question de temps. Or, aujourd'hui, dans l'arrêté qui est en préparation, eh bien, cette notion de temps apparaît. Numéro de l'article a d'ailleurs changé. Et donc, ça veut dire que ce que nous avions obtenu est soumis aujourd'hui à cette condition de temps, donc c'est, on peut considérer que c'est une période qu'on peut qualifier d'observation, dans laquelle, alors moi je suis pas très inquiet parce que ce qui était vrai l'année dernière, je vois pas pourquoi ce serait plus vrai cette année.
Bien sûr.
Au niveau des faits, je parle. En revanche, ça veut dire beaucoup de choses au niveau de la réflexion des gens qui sont à la direction de la ville de Paris. Mmh. Et ça veut dire qu'il faut quand même qu'on fasse attention à bien observer les règles. J'approuve tout ce que vous avez dit au début de cette émission. Mais on est tous aujourd'hui dans une situation où il va falloir composer. Nous, notre parti pris, c'est de négocier associations ou formations partent sur la contestation. Je pense que c'est pas incompatible.
Bien sûr que non.
Chacun son rôle.
Chacun son rôle, tout à fait. Vous faites votre travail.
Mais faisons attention. Nous sommes sans doute aussi en face d'un côté irréversible. Je veux pas employer le mot doctrinaire, mais faisons attention. Oui. Il faut qu'on trouve des solutions.
Alors,
à partir du moment où on prouve qu'on n'a pas justement d'impact, il ne faudrait pas qu'on se retrouve devant une situation où nous devrions, à ce moment-là, manifester.
Voilà. Alors, je précise que ce sont les voitures de plus de 30 ans. Alors, il restera un problème, et peut-être que la FEVE pourra d'ailleurs s'en occuper, même si ça rentre pas véritablement dans son objet social. C'est le cas de ce qu'on appelle, alors je suis désolé, sur Radio Courtoisie, on n'utilise pas d'anglicisme, normalement. Mais là, c'est le mot consacré, les Young Timers. Alors, qu'est-ce que c'est que les Young Timers? Ce sont les voitures collectionnables, en bon français. Ce sont les voitures qui ont entre 20 et 30 ans. Alors, dans ces voitures qui ont entre 20 et 30 ans, il y a deux catégories de véhicules. Il y a des véhicules qui sont usés jusqu'à la corde. Mon cas, j'ai une voiture qui a 330 000 km, qui est garée d'ailleurs à côté d'ici, et cette voiture n'a plus vraiment de valeur. Bon, mais elles servent beaucoup, ces vieilles voitures, parce qu'elles sont extrêmement solides. Les voitures fabriquées entre 1990 et 2000 sont d'une incroyable solidité, et elles ont peu d'électronique. Mais ça, c'est le tout venant. Alors, vous avez beaucoup de vieux diesels là-dedans, des voitures utilitaires, on va dire. Mais vous avez aussi, dans cette catégorie, des véhicules de prestige, des véhicules sportifs, des Rolls-Royce, des Ferrari, des Maserati, des Jaguar, des Porsche, par exemple des Porsche 900 ou 917, il y a des très belles voitures. Donc évidemment, là il y a un problème, il y aura un problème. Je vois que monsieur Tocobon proteste, je vais lui laisser la parole. Et il y aura un problème parce que il faudrait peut-être créer aussi une catégorie intermédiaire. On reviendra là-dessus. Alors je vois qu'il y a des questions d'auditeurs, après je vais laisser la parole au professeur Morin. Pouvez-vous préciser si le droit de circuler, j'arrive pas à bien lire, si on a le droit de circuler dans Paris sans la vignette? Ben alors j'ai vu, on doit théoriquement mettre la vignette, mais pour le moment, il n'y a pas de sanction. Voilà. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai des voitures qui ont le droit de rouler, mais personnellement, je ne mettrai pas de vignette. Voilà. C'est mon principe. Je ne mettrai pas de vignette.
La verbalisation est différée au printemps.
Voilà, et la verbalisation est différée au printemps. Alors, Xavier, il y avait une autre question. Est-ce que tu peux la lire, s'il te plaît?
Voilà. Effectivement, compléter votre observation sur le premier point, verbalisation, la mairie de Paris a fait savoir qu'elle serait différée au printemps. Maintenant, il faut connaître le texte qui s'applique. Et ben, c'est le nouvel article R411-19-1 du Code de la route qui prévoit deux choses. Qui réprime la circulation et le stationnement.
Voilà.
Et le stationnement en violation des restrictions d'une ZCR, comme on l'appelle. Donc, c'est passible d'une amende qui est prévue de troisième classe, c'est-à-dire 450 euros,
oui,
et de
même,
quatrième classe, c'est-à-dire 750 euros pour les poids lourds, les bus et cars, avec faculté d'immobilisation du véhicule. Ouais. La mairie, selon les communiqués de presse que nous avons pu entendre, parle d'une amende de 68, puis après nous sommes passés à 135 euros, mais il faut savoir que le code prévoit une amende de 450 euros pour deux roues et véhicules particuliers.
Alors on voit bien, donc voilà là. Alors on voit bien que la mairie de Paris est dans une période d'observation. Le montant de l'amende est vraiment là en ce moment un peu à la tête du client. Bon, alors, vous inquiétez pas, mais non, ça sera que 30, non, ça sera 68. Et puis bon, mais attention, c'est un piège aussi. Alors il y a cette question, oui, sur les véhicules handicapés. Eh bien oui, les véhicules handicapés font partie des dérogations. Hein, donc pas de problème. Les personnes qui ont un macaron handicapé peuvent continuer à rouler parce que ces voitures souvent comportent des aménagement particulier. Donc, fort justement, la mairie de Paris est quand même a décidé de ne pas les prendre en otage, ceux-là. Alors maintenant, j'aimerais que la science parle, parce que tout cela, c'est bel et bon, mais il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais après tout, c'est parfaitement justifié, vu les ravages de la pollution, il fallait bien en passer par là. Alors, mon cher collègue, professeur Morin, vous qui êtes chimiste, spécialiste des pollutions, j'ai une première question. Ces voitures de plus de 20 ans qu'on veut persécuter, qu'est-ce qu'elles représentent à peu près en pourcentage dans la pollution de la région parisienne? Je vous laisse la parole là.
Alors, dans la pollution parisienne, ces voitures représentent à peu près 0,5% des kilomètres parcourus et peut-être à peu près 2% de la pollution particulière émise. Il faut savoir que ces véhicules de collection, elles sont essentiellement à carburation essence et très peu à carburation diesel, donc non émettrices de particules qui sont à l'origine des restrictions de circulation attribuées aux véhicules diesel. Alors, Une fois ça dit, vous avez très justement repris le chiffre de l'Organisation mondiale de la santé, 40 000 morts annuels liés à la pollution d'origine particulière. Alors, ces chiffres ont le mérite d'exister, mais faut savoir qui est contributeur en matière de particules. Alors, si on prend les inventaires d'émissions du CITEPA, qui est l'organisme national en charge de réaliser ces inventaires, eh bien, l'automobile et les véhicules légers représentent à peu près 6% de la pollution particulière. Donc, 94% vient d'ailleurs. Parmi ces 94% qui viennent d'ailleurs, 35% viennent du chauffage individuel et collectif, dont il faut savoir que l'énergie consommée au bois est de 3%, mais représente 80% de la pollution particulière émise par le chauffage. Donc, cette pollution particulière n'est pas dépolluée, apporte beaucoup d'hydrocarbures à la surface des particules, et ce sont ces particules qui sont les plus toxiques. Alors si on revient maintenant à 6% des véhicules personnels contribuant à la pollution particulière, il concerne essentiellement les véhicules anciens. Alors effectivement les véhicules antérieurs à 1997, puis les véhicules entre 1997 et 2001 dont nous avons parlé, qui sont de la norme Euro 2, ces véhicules ont un catalyseur d'oxydation et avaient obtenu en leur temps la pastille verte. Souvenez-vous de la pastille verte de 1996. Madame Voynet était à l'époque ministre de l'écologie.
Sur ma voiture interdite, gelée, cette pastille verte, exactement.
Alors, arrive la norme Euro 4, qui sévérise les émissions en termes de pollution. Et puis, faut savoir que les véhicules n'émettent pas que des particules, ils émettent aussi des hydrocarbures imbrûlés. Et les hydrocarbures imbrûlés sont potentiellement toxiques. Et là, ce sont les véhicules à essence qui émettent le plus d'hydrocarbures imbrûlés. Les véhicules émettent aussi des oxydes d'azote, et parmi les oxydes d'azote, le NO2, dont on commence à entendre parler, a un rôle important en matière d'impact cardio-respiratoire. Je continue avec la norme.
Oui.
2011, la norme Euro 5, tous les véhicules diesel sont équipés d'un filtre à particules fermé, qui empêche la sortie de 99,9% des particules fabriquées lors de la combustion des moteurs diesel. Arrive la norme Euro 6 en 2015, et là, tous les véhicules diesel vont être équipés d'un filtre à particules et d'un système d'abaissement des oxydes d'azote. Alors ça veut dire que depuis que les véhicules Euro 5 et les véhicules Euro 6 roulent, les véhicules diesel n'émettent plus de particules.
Et alors qu'on veut continuer à les interdire.
Au
nom des particules.
Au nom des particules. Alors faut savoir que ces véhicules Euro 5 et Euro 6 sont à l'origine de près de 65 à 70% des kilomètres parcourus. Et j'ai été très intéressé sur la notion de kilomètres parcourus qui a été abordée par un des interlocuteurs précédents, car c'est ça, c'est le nombre de kilomètres parcourus qui fait les émissions du parc automobile.
Alors je vais venir juste une petite précision pour que les auditeurs comprennent bien. La voiture de collection est un domaine très particulier parce que les collectionneurs ont souvent plusieurs voitures de collection. Et quand un collectionneur, et j'en fais partie, a des voitures de collection, moi j'en ai 7 en ce qui me concerne, je roule pas dans les 7 en même temps. Bon, on pourrait, hein, si on était la reine d'Angleterre, avec notre suite, on roulerait dans toutes nos voitures. Mais c'est jamais le cas. C'est pour ça qu'on fait très peu de kilomètres. On les utilise très occasionnellement. En revanche, ce que nous voulons, c'est avoir la liberté de les utiliser quand nous le souhaitons. Et qu'on vienne pas nous mettre le couteau sous la gorge. Mais c'est pour ça qu'il y a tellement peu de kilomètres. La voiture de collection est une voiture qui roule très peu. Elle fait 1000, 1500 kilomètres dans l'année. Donc ça, voilà, c'était juste une parenthèse pour aller dans le sens de ce que vous disiez.
Voilà. Alors, je voudrais insister, on parle beaucoup du Dieselgate, du scandale de Volkswagen, des émissions Renault sur Renault Captur, aujourd'hui des émissions sur le C4 Cactus. Bon, en fait, de quoi s'agit-il ? Il ne s'agit pas de fraude sur les émissions de particules, car tous ces véhicules sont équipés d'un filtre à particules. Et quand nous entendons dire, c'est un scandale, les véhicules diesel, le système de dépollution, non, le système de dépollution retire les particules. Il s'agit de soucis sur le fonctionnement, éventuellement, des systèmes qui visent à abaisser les oxydes d'azote. Donc ça, il faut être très clair, les véhicules Euro 5, les véhicules Euro 6 ne contribuent plus à l'émission de particules au pot d'échappement. Par contre, et ça, tous les véhicules, qu'ils soient de collection ou autres, émettent des particules lorsqu'ils freinent.
Alors voilà.
Émettent des particules lorsqu'ils roulent.
Et même les plus modernes.
Même les plus modernes.
Et même le métro, j'ai lu.
Alors
le métro,
c'est une catastrophe parce que ce sont des particules métalliques et issues de l'usure.
Donc il faut interdire le métro.
Alors le métro, en termes d'exposition aux particules, est l'endroit où on est le plus fortement exposé en Île-de-France aux particules dans l'atmosphère.
Chers collègues, je vous interromps un instant. Tout ce que vous venez de nous dire, à la mairie de Paris, ils sont au courant ou pas du tout ?
Bien sûr.
Mais alors, ils prennent...
Ils ne peuvent pas ignorer tous les rapports.
Mais alors, nous sommes dans la manipulation des foules. Nous sommes dans ce que le grand sociologue Kara-Murza appelait la manipulation des consciences. Il y a un chiffre qui m'a frappé. 2% la pollution seulement représente ces voitures représentent que 2% de la pollution. C'est-à-dire qu'on va persécuter, on va prendre en otage, on va punir, on va brimer, on va prendre comme tête de Turc, c'est le cas de le dire, une population entière, une bonne partie de la population, parce qu'on veut avoir un coupable.
Alors il y a un coupable qui est bien identifié.
C'est l'automobile.
C'est l'automobile. Voilà. L'automobile, c'est facile. C'est finalement quelque chose qu'on peut taxer aisément via les carburants, via une vignette à 4,18 €, qu'il va falloir souscrire. Voilà. Alors,
Les locomotives diesel, elles ont des filtres à particules ?
Non, les locomotives diesel n'ont pas de filtres à particules. La batellerie, les bateaux mouches ou les péniches sont à Paris, ne sont pas équipés de filtres à particules et ont des moteurs diesel souvent relativement anciens.
Et les usines qui entourent Paris, elles n'ont pas de filtres à particules ?
Alors, les usines ont éventuellement des systèmes qu'on appelle de dépoussiérage. Voilà. On va retirer les plus grosses particules qui sortent des cheminées, ça se verra moins. Et donc, moi, je crois que il faut vraiment, si on veut être juste avec les différentes catégories de véhicules, regarder ce qu'elles représentent en termes effectifs de pollution et évaluer réellement quel gain on aura en matière de qualité de l'air. Donc, je voudrais bien affirmer ici que même les rapports du ministère de l'Environnement attestent que la qualité de l'air en Île-de-France n'a jamais été aussi bonne que ces dernières années.
C'est tout à fait exact. Et alors, je peux vous dire que moi, qui ai été étudiant à Paris, l'air était horriblement pollué dans les années 70. Le monde s'en fichait complètement. L'air était mort à Paris. Je le disais à mes parents, et c'est pour ça que je voulais habiter Fontainebleau. C'était effrayant. Mais ce que vous dites, professeur Morin, est tellement juste que même la mairie de Paris l'a reconnu, puisque dans une interview au journal Le Monde, un des adjoints de Madame Hidalgo a dit, bon, parce que le journaliste lui dit, mais quelle va être l'amélioration dans les semaines qui vont suivre l'entrée en vigueur des interdictions? Il dit, oh, on peut espérer une amélioration de la qualité de l'air entre 3 et 5%. Et on pense qu'entre 3 et 5%, déjà, il est optimiste. Et alors, le journaliste dit, mais c'est très peu, mais ça correspond pas du tout. Il y a une disproportion entre ce chiffre que vous venez de me donner et les mesures que vous prenez. Ah oui, mais il faut en faire une question de principe, c'est un débat citoyen. Donc on est dans le côté dogmatique que vous avez dénoncé. On va peut-être justement laisser parler justement Michel Romanet-Peyroux, qui va rebondir sur ce que vous venez de dire, mon cher collègue, parce que je crois qu'il a, je le vois ruer dans les brancards et ronger son frein.
Sans jeu de mots. Débat citoyen, certes, mais lorsqu'il y a une enquête publique citoyens répondent...
Donc Michel Romanet-Peyroux de l'UDELSIM, l'Union pour la Défense de la Liberté de Circuler, motorisée et libre, voilà, et dans l'égalité. Voilà.
Effectivement, lorsqu'il y a une enquête publique, et il y a eu deux enquêtes publiques, une pour la fermeture des voies sur berge et l'autre pour les interdictions de circuler, qui sont défavorables. Il y a les pourcentages qui sont dans les différents journaux. Alors pourquoi ne pas tenir compte de ce que le peuple a donné comme raison? Oui. Et je voudrais rebondir. Vous dites que si le métro est mille fois ou beaucoup plus pollué que ce que les automobiles rejettent, mais on va augmenter le nombre de morts. On est déjà à 40 000 s'ils prennent le métro.
Ça va être une catastrophe. Vous avez tout à fait raison.
Ça va être une véritable catastrophe.
Ça va être une hécatombe. C'est un holocauste qui se prépare. C'est vraiment la chambre à gaz.
Je crois qu'il faut être
alors
un petit peu sérieux. Moi, je souhaiterais qu'on puisse se mettre autour d'une table raisonner clairement en adulte responsable et non pas en montrant un bouc émissaire en disant « Ah, la voiture, etc. » La voiture ne pollue pas plus ou beaucoup moins que le métro. Et je pense qu'il y a des mesures que tout le monde peut prendre, mais si on les prend ensemble et non pas divisé.
Alors, je vais peut-être maintenant demander à notre éminent avocat Éric de Caumont quels moyens les usagers peuvent-ils employer pour faire valoir leurs droits et pour défendre leur liberté? Parce que là, on entre quand même dans une phase de l'oppression qui commence à porter atteinte même véritablement à la vie privée. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître de Caumont?
Ben vous savez, les moyens, ils sont nombreux, variés et divers. Alors, le moyen absolu, c'est effectivement le bulletin de vote.
Évidemment.
Ça permet effectivement de sanctionner des gens qui finalement ne tiennent pas compte. Ça m'intéresse beaucoup qu'on parle de ces enquêtes qui ont été effectuées avant, puisqu'en fait on fait des enquêtes, elles disent non, faut pas fermer les voies sur berge par exemple, et on vous répond oui mais enfin elles sont faussées et on n'est pas obligé d'en tenir compte, elles sont juste consultatives. Ah, donc c'est la démocratie, c'est si t'es d'accord avec moi, je t'écoute, si t'es pas d'accord avec moi, tu peux passer ton chemin. Bon, ça c'est une première chose. Bon, maintenant, d'un point de vue purement juridique, après ça, évidemment, il y a deux façons d'agir. Il y a la façon d'agir contre un acte administratif qui consiste à faire un recours, à condition de pouvoir le faire dans les délais. Il y a eu des recours qui ont été engagés, certains ont déjà échoué, pas tous, sur notamment les premières mesures qui ont pu être prises, par exemple sur les voies sur berge. Je vous rappelle, mais on en reparlera sûrement dans la deuxième partie de l'émission, que les voies sur berge, pour l'instant, on est dans une phase transitoire. Si vous descendez sur les voies sur berge, ça travaille nuit et jour pour essayer de rendre définitif tous les travaux qui sont effectués dessus, dans le genre, si jamais par hasard, dans quelques mois, on nous dit finalement, non, c'est pas une bonne idée, vu la pollution qui s'est reportée sur les quais. Et là, on vous répondra, attendez, on a déjà fait 3 millions, 50 millions, 20 millions de travaux, on va pas tout casser non plus. C'est un petit peu le principe, vous savez, en matière de permis de construire.
La carte forcée.
Voilà. En matière de permis de construire, des gens qui se dépêchent de faire des choses en attendant la décision du tribunal administratif.
C'est la technique du fait accompli.
Voilà. Et qui dit, on va pas détruire un immeuble qui a été construit maintenant. Bon. Et d'autre part, deuxième façon d'agir purement juridique. Là, je vous ai parlé d'une voie d'action, là, je parle d'une voie d'exception, c'est-à-dire l'exception d'illégalité. C'est quelque chose qu'on pratique assez souvent, nous autres pénalistes, et qui consiste à dire, ok, nous avons été verbalisés. Je vous dis pour ma part, personnellement, que je n'utilise dans Paris que des véhicules qui pourraient bénéficier d'une carte grise collection, puisque la plus jeune de mes motos a 31 ans et la plus vieille en a 48. Bon, donc tous ces véhicules pourraient passer en carte grise collection, je ne le fais pas, par principe, parce que je cherche la verbalisation.
Ah.
Je souhaite être verbalisé parce que ça sera la porte d'entrée pour aller soulever devant le juge qui va me juger, parce qu'on va me dire, vous avez une amende forfaitaire à 68 euros. Je vais dire, je refuse de la payer, et je demande à être jugé par un juge, comme c'est encore, bien sûr, un droit fondamental en France. Et une fois que je serai devant le juge, je vais soulever des exceptions d'illégalité sur le fait que il y a effectivement des éléments éminemment contestables dans les décisions qui ont été prises et qui vont à l'encontre d'un certain nombre de valeurs, notamment de textes nationaux ou supranationaux qui sont supérieurs à un arrêté municipal. Et que donc, dans la mesure où vous le savez, et je suis très fier d'y avoir participé il y a une petite vingtaine d'années, a été codifié l'article 115 du code de procédure pénale qui prévoit que lorsqu'un juge qui doit appliquer une règle pénale se voit sollicité par la défense d'examiner si cette règle pénale est conforme à d'autres valeurs d'essence supérieure, d'autres procès d'essence supérieure, il est tenu de répondre à cette exception d'illégalité et éventuellement de dire « Vous avez raison, juridiquement la décision dont on me demande de sanctionner le non-respect a été prise en violation d'autres textes supérieurs, donc je ne vais pas mettre un terme à cette décision car j'en ai pas le pouvoir, ça c'est les problèmes de questions prioritaires de constitutionnalité par exemple, mais vous je ne vous condamnerai pas car je refuse d'appliquer une loi illégale, on va dire, mais pour simplifier rapidement.
Normal. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes.
Exactement, totalement, et c'est sur cette base-là moi que je suis parti dans mon travail militant depuis deux jours, à savoir que je suis venu vous voir avec une moto qui plus est en plus une moto deux temps. Ah, c'est pas un diesel, c'est pas une moto 4 temps, c'est pire encore, c'est un véhicule qui fait une jolie fumée bleue derrière lui, c'est diabolique, c'est satanique, car je ne conduis que des motos 2 temps, et je suis venu avec en cherchant la verbalisation, donc avis aux auditeurs.
C'était peut-être même une décavée de la Wehrmacht en plus.
Non, on n'en est pas là, je vous ai dit quand même entre 31 et 48 ans, on n'en est pas à 70 années en arrière. Mais bon, espérons qu'il y a des auditeurs qui sont dans les forces de police nationales et municipales, car je leur demande expressément de bien vouloir avoir l'amabilité de me verbaliser. Oui. Pour être très franc, j'ai quand même un petit joker moi avec mes motos. C'est que, en fait, parmi mon parc, j'ai une moto qui est en double. J'en ai deux. Deux de la même, exactement les mêmes modèles. Et il y en a une que je suis en train de passer en carte grise collection. Oui. Et l'autre que je garde en carte grise normale. Oui. Et après ça, au tribunal, je viendrai avec les deux. Et je dirai, devinez quelle est la collection qui a le droit de circuler, devinez quelle est la collection qui a le droit de circuler. Évidemment. Et mettez-moi vite derrière un appareil de mesure pour voir laquelle de deux pollue le plus. Bon. Et effectivement, je démontrerai par l'absurde le fait que cette dérogation qui, au demeurant, était souhaitable, et je félicite la FFE de l'avoir obtenue, parce que c'est une parcelle de liberté, même si j'entends dire qu'il y a eu une modification et qu'on leur a mis un petit 3 ans qui n'était pas prévu au départ, et c'est bien dans les méthodes de la municipalité parisienne, ça ne m'étonne pas du tout, que c'est effectivement une zone de liberté qui a été préservée, c'est très bien, mais encore une fois, moi, j'utilise de la même façon mes motos, qu'elles soient avec une carte grise collection ou toutes les autres sans carte grise collection, et je veux démontrer, ça fera partie de mon système de défense, que effectivement cette dérogation, si elle est fondée, et moi personnellement je la trouve extrêmement saine, elle légitime parfaitement que j'utilise l'autre qui a pas la bonne carte grise mais qui est exactement la même moto avec la même pollution. Donc c'est l'exception d'illégalité qui va être, à mon avis, un moyen de pouvoir lutter au quotidien contre ces décisions. Évidemment, on pourra aller, et on ira sûrement, très haut, c'est-à-dire jusqu'à la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme. Et par ailleurs, on peut parfaitement envisager de parler d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Alors, je rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie, l'émission Droit et Liberté. Vous étiez en train d'écouter Maître Éric Decaumont, spécialiste de la défense des automobilistes. Et c'est une émission consacrée aux atteintes à la liberté de circuler. Nous sommes en train, pour ceux qui nous prennent en cours d'émission, et beaucoup de gens d'ailleurs nous prennent en cours d'émission parce qu'ils sont coincés dans les bouchons. Donc c'est ça l'avantage au fond de la politique qui est menée, c'est qu'il y a plus d'auditeurs pour Radio Courtoisie à cause des bouchons. Eh bien, vous écoutiez Éric Decaumont et donc je ne peux qu'inviter les auditeurs qui auraient des problèmes avec leur voiture de collection à retenir le nom de cet avocat spécialisé, Éric Decaumont, qui a les outils pour vous défendre. Alors maintenant, à part les armes juridiques que Maître Decaumont vient d'expliquer très bien devant nous. Michel Romanet-Pérou, vous qui êtes un leader associatif, l'UDELSIM, est-ce que vous pensez qu'on peut, sur le plan pratique, sur le plan politique, mettre en place des manifestations, quelque chose? Je crois que vous avez dans vos calendriers déjà un certain nombre de projets, me semble-t-il.
Alors, il y a eu des manifestations dès le mois de juillet, avec la Fédération Française des Motards en Colère. Il y avait 3000 motos et c'était assez impressionnant. Il y avait beaucoup moins de voitures et nous avons effectivement manifesté. Les médias ne nous ont jamais passé un entrefilet ni rien dans leurs journaux ou dans leurs médias respectifs. Nous avons manifesté au mois de septembre, pareil. Rien dans les journaux, rien dans la presse. Nous avons manifesté le 15, c'est-à-dire il y a deux jours, manifestation qui est partie de la place Vauban pour arriver devant la mairie de Paris avec effectivement interview de personnes qui risquent d'être pénalisées. Oui. Pas grand monde dans les médias ni dans les radios, donc on est complètement oublié. Les motards en colère ont manifesté aujourd'hui partant du château de Vincennes pour arriver devant la mairie de Paris, avec pareil, interpellation, etc.
Ah oui, quand même, interpellation.
Enfin, interpellation du public.
C'est pas par la, pas par
non,
la police.
C'est par Jean-Marc Bellotti, le président. Et il ne se passe rien. Alors, effectivement, nous avons déposé un recours dès le 25 juillet pour le premier arrêté qui a été pris avec mise en vigueur au 1er juillet. Il est en cours de jugement. La mairie de Paris a fait une réponse que j'aurais dû amener parce que tellement c'est drôle et risible, les arguments sont tirés par les cheveux. La préfecture a fait une réponse similaire. Nous avons répondu et le juge a demandé un délai supplémentaire. Alors, pourquoi a-t-il demandé un délai supplémentaire? Parce que il est peut-être un peu gêné
embarrassé,
pour juger.
Ouais.
La mairie de Paris donc va reprendre un arrêté puisque aujourd'hui il n'y a pas d'arrêté qui est produit. Il y a la ZCR qui a été décidée contre l'enquête publique. L'arrêté n'est pas pris. Nous attendons l'arrêté et nous attaquerons cet arrêté comme il se doit. Comme le disait Maître Caumont, deux voitures identiques, une en carte grise collection, la même en carte grise normale, comment la maréchaussée va-t-elle verbaliser? Qui va-t-elle arrêter? La première ou la deuxième?
Elle va devoir regarder la carte grise, et c'est d'ailleurs ce qui nous renvoie à ce que disait le professeur tout à l'heure, à savoir, faut-il mettre ses vignettes? Parce que mettre sa vignette, c'est faciliter le travail de contrôle et de verbalisation des policiers et des gendarmes qui ont probablement des choses plus utiles à faire, surtout en ces temps troublés, mais qui effectivement sont mobilisés, notamment lors des pics de pollution, pour essayer de terroriser un petit peu les automobilistes et motards. On a tous vu ça, on a tous vu comment ça s'était passé, et il est clair que plus il y a, et là j'abonde totalement dans ce que disait le professeur tout à l'heure, plus il y a d'automobilistes qui payent 4,18€ ou de motards pour pouvoir mettre une vignette sur leur véhicule, plus on facilite le travail de répression. Si personne ne mettait de vignette,
le système tombe de lui-même.
Le système est ingérable.
Je dis révoltons-nous, ne mettons pas cette vignette.
Vous pouvez compter sur moi, je refuse d'acheter la vingtaine de vignettes qui devraient
aller sur votre vingtaine. Voilà, Jean-Baptiste Tuzet, qui représente Radio Crooner. Alors désolé, ici sur Radio Crooner, on n'utilise pas de mot anglo-saxon, mais c'est le nom de la radio. Je ne sais pas quelle est la traduction.
Oui, puis c'est une radio amie avec toutes les radios qui émettent dorénavant en DAB, Digital Audio Broadcast, Radio Courtoisie d'ailleurs. Et quel bonheur d'entendre une radio haute définition dans une voiture ancienne à Paris.
Ah, exactement.
Mais voilà, c'est ça qu'il faut proposer à une femme.
Voilà.
À notre mère, c'est une dame.
Je pense que...
L'amener sur les Champs-Élysées, l'amener place de la Concorde.
Dans une ancienne.
Belle Rolls de 1973. Si. Et à l'intérieur, un appareil de radio haute définition pour écouter un crooner. Mais c'est, on ne peut pas se passer
de
ça.
Si c'est la cadillac de Fidel Castro, peut-être que ça pourrait lui plaire.
Petite anecdote. Vous savez que les forces de police et les CRS suivent attentivement nos manifestations. Au mois de septembre, la mairie de Paris était tapissée de cars de CRS, des fois qu'on ait l'idée de casser, ce qui n'est pas tout à fait notre style. Et effectivement, alors comme on s'arrête, on discute avec les CRS et je leur dis, mais vous avez une voiture? Ah bah oui, moi j'ai une 104 de 1900, enfin une voiture qui n'a plus le droit de conduire. Ah bah je dis, vous n'avez pas de peau, vous n'allez plus pouvoir circuler. Donc les forces de l'ordre qui, bien sûr, exercent leur travail, sont de tout cœur avec nous. Voilà, c'était le petit mot que je voulais dire, parce que ça se sent, ils ont le sourire et ils nous laissent faire parce qu'on n'est pas méchant, parce qu'on va crier quelques slogans, on va interpeller, mais on n'a pas de barre de fer et on n'a pas de cagoule pour casser.
Alors, il y a un certain nombre de questions d'auditeurs que je vais lire, un auditeur qui dit un grand merci à monsieur de Caumont pour son combat. Ben, je crois qu'on peut tous le remercier. Hein, c'est indiscutablement. C'est une évidence. Vous montrez l'exemple. Un autre auditeur nous dit, dans les années 70-80, on parlait beaucoup de pots catalytiques pour les voitures. On disait que cela devait être efficace pour lutter contre la pollution. Et maintenant, ils prennent des interdictions. Pour quelle raison? Bah, parce que les normes, comme l'a montré le professeur Morin, sont devenues de plus en plus restrictives et qu'il y a une sorte de fuite en avant vers la perfection, vers zéro pollution. C'est ça, parce qu'au début, on était raisonnable et puis maintenant, on veut le perfectionnisme. Et il dit, et le chauffage urbain, émet-il beaucoup de particules? Eh bien, bien entendu, évidemment.
Alors, le chauffage urbain.
Ah, au bois, pardon.
Le chauffage au bois émet par unité de CO2 consommée, à peu près 300 fois plus de particules qu'un chauffage au gaz.
Ah ben voilà. Voilà, effectivement. Alors, il y a aussi un auditeur qui nous dit « Avez-vous pris contact avec M. Fillon, qui est un ami de l'automobile ?» Alors, justement, c'est une excellente question, parce que je crois, pour ma part, qu'il y a une certaine expérience, quand même, de l'administration et de la politique, que le travail remarquable qui a été fait par la FFVE sert de point de départ, mais qu'il va falloir aller plus loin. Il va falloir qu'on obtienne, déjà, sur le plan national, une dérogation permanente pour les véhicules historiques, parce que ça fait partie du patrimoine européen et français. Et il va falloir qu'on trouve une solution pour les voitures qui ont entre 20 et 30 ans, qui ne sont pas encore de collection, mais qui sont collectionnables. Il faut aussi que la carte grise de collection devienne un véritable titre de circulation sécurisé, et qu'on ne puisse pas remettre en question n'importe quel propos, les avantages qu'elle donne aujourd'hui aux collectionneurs, qui sont parfaitement justifiés. Et je pense que pour mener ce combat, il est très important de ne pas simplement se contenter de discuter avec tel ou tel maire, parce que là, vous avez vu, il y a 750 maires qui veulent faire pareil que Madame Hidalgo, que le maire de Paris. C'est pas gérable, ça va être à la tête du client. Non, il va falloir qu'à l'échelle nationale, il y ait un texte, et je crois qu'en effet, il serait utile d'aller voir, alors peut-être Fillon évidemment, puisqu'il est ami de l'automobile, mais peut-être aussi Madame Le Pen et peut-être aussi Monsieur Macron, qui sont tous les trois des gens qui finalement ont peut-être quand même un peu de bon sens, pour leur dire bon, arrêtons de perdre notre temps sur des faux débats, parce qu'on le disait avec Xavier Péquin, qui a laissé sa place momentanément à Jean-Baptiste Tuzet, c'est un faux débat, le professeur Morin vient de nous le montrer, on est en train de se crêper le chignon pour un 2% de pollution, mais la fameuse zone d'air purifié, elle restera polluée à 98%, je le rappelle. Donc on est en train de faire prendre là des vessies pour des lanternes, n'est-ce pas, Monsieur Morin ?
Voilà, alors on a des retours d'expérience sur des zones dites à faibles émissions. On a des retours d'expérience sur Berlin, on a des retours d'expérience sur l'Allemagne du Sud-Est, on a des retours d'expérience en Suède, et à chaque fois, on a pénalisé l'automobile pour un très maigre résultat. C'est-à-dire que les mesures de pollution qui ont été faites montrent que si diminution il y a, elle est dans la marge d'erreur de la mesure pas dans le significatif.
Mais c'est d'autant plus vrai que même la mairie de Paris l'a reconnu dans les colonnes du Monde au mois de décembre. 3 à 5% d'amélioration au maximum. Et le journaliste en était effaré. C'est là que l'adjoint au maire a dit « Ah oui, mais c'est une question de principe. » Alors là, on verse dans l'aspect idéologique. Parce que derrière la voiture, il y a tout un aspect, je dirais, qui relève de la psychanalyse. C'est un symbole social. Ça suscite une sorte de lutte des classes, quelque part. Il y a la haine du riche derrière la voiture de luxe. Et la voiture de collection aussi. Moins heureusement aujourd'hui. Moi qui ai eu l'habitude d'utiliser des voitures de collection qui sont prestigieuses, notamment des Rolls-Royce, on est beaucoup mieux traité aujourd'hui que dans les années 70. On se faisait insulter à tous les coins de rue. Aujourd'hui, les gens vous font des signes amicaux parce que... Mais il y a encore des crétins qui vous injurient. Alors, il y a quelque chose d'assez compliqué. Il faudrait créer, je dirais, une sorte de psychanalyse de la politique. Hein. Ça serait certainement très intéressant. Alors, il y a une dernière question. Là, Cugnot a inventé le premier véhicule. Quid des voitures des véhicules historiques? Eh bien oui, les véhicules historiques, le Fardier de Cugnot, il aura une carte grise de collection. Il n'y a aucun problème.
Il est le bienvenu. Il est le bienvenu.
Bon, c'est un steamer, comme on disait autrefois, donc une machine à vapeur, mais ça émet des particules, mais il n'y a pas de problème. Alors, on va même permettre à Jean-Baptiste Tuzet de dire un peu ce qu'il pense de tout ça. Parce que Jean-Baptiste Jugier est journaliste, il dirige Radio Crooner et il est collectionneur de véhicules anciens.
Oui, et passionné. Et moi, je voudrais juste apporter un peu de douceur dans ce monde de brut qui nous entoure. Et d'abord remercier tous les gens autour de cette table pour leur précision et leur efficacité. Je les connais pratiquement tous. Ouais. Non, moi déjà, je voudrais dire que je suis venu au rendez-vous en Fiat Panda de 1991 et je n'ai rien à fiche de je ne sais quelle décision que j'ignore d'ailleurs, que je ne connais même pas. Maintenant, ce que je voudrais dire pour prendre un petit peu de recul sur toute cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, comme dirait Bob Dylan, times are changing, et nous vivons des temps nouveaux où finalement, dans cette époque où tout est interdit, on ne peut plus fumer, on ne peut plus boire, on ne peut plus rien faire. J'ai l'impression que l'automobile, je parle pas des bagnoles qui remplissent Paris, je parle de la voiture automobile, celle qui fait rêver une population de plus en plus importante et une population de plus en plus jeune, car elle est un symbole d'excellence et de liberté. Et donc, effectivement, vous parliez de ces fameux youngtimers. Mon fils vient d'acheter aussi une Fiat Panda, et il l'a pas acheté parce qu'il a pas un sou et qu'il voulait une voiture détériorée pour débuter son permis. Non, il l'a acheté par passion, parce que c'est une véritable automobile, petite automobile, et il s'aperçoit qu'il ne pourra pas, normalement, rouler dans Paris. Et donc, il y a là, tout collectionneur commence, comme vous, on le dit si bien autour de cette table, par une petite automobile achetée 1000 euros. C'est pas pour ça qu'elle va polluer les Parisiens. Au contraire, nous sommes des éco-citoyens. Moi, je roule en scooter la semaine parce que je ne veux pas me mêler dans ce flot inextricable de bagnoles. Mais par contre, quand je vais chercher ma fiancée gare d'Austerlitz, j'ai envie, le dimanche, et même le lundi, si ça me chante, de prendre une belle auto comme vous aimez, mon cher Tournafond. Et puis, nous ne sommes pas des riches, nous sommes juste des passionnés. Prendre une belle automobile pour aller chercher une dame, Madame Hidalgo, à la gare, et la ramener, une voiture qui sent bon et qui offre du plaisir aux
gens. Et je dirais même que, pour citer Madame Royale, nous ne sommes pas riches, nous sommes simplement aisés. Hein, c'est Ségolène Royal qui avait répondu cela, parce qu'un journaliste lui avait dit, mais vous êtes fortunée, vous êtes riche, Madame Royale. Elle a dit, non, nous ne sommes pas riches, nous sommes aisés, simplement. Et oui, d'ailleurs.
La passion est communicative, et quel bonheur de rouler dans une ancienne et de voir les enfants. L'enfant dit tout, quand il montre du doigt, il prend son papa ou sa maman par la main, je ne voudrais pas faire de violon inutile, mais c'est la vérité. Et vous disiez, mon cher, que les gens pouvaient vous critiquer parce que vous roulez dans vos magnifiques vieilles Rolls. Non, pas du tout. Les gens vous saluent, oui, les gens sont heureux, les touristes, qu'ils soient français
aujourd'hui,
ou étrangers, ils ont comme une révélation.
Ça leur fait plaisir.
Vous passez sur les Champs-Élysées.
C'est comme quand ils voient passer la reine d'Angleterre.
Mais évidemment, c'est les 30 Glorieuses, c'est la France qui était opulente et sympa.
C'est d'autant plus vrai, cher ami, qu'un Fontainebleau au volant d'une Bentley Mark VI de 1952, quelqu'un m'a fait la révérence. Une jeune femme en plus. Vous vous rendez compte, quel plaisir. Hein. C'est peut-être pas Madame Hidalgo. Hein. Alors, et là, il y a une excellente question qui est très intéressante. Un auditeur nous dit, il y a un droit de propriété attaqué par cette loi sur la circulation, sur les interdictions de circuler, parce que une bonne partie des véhicules, j'ai beaucoup de mal à lire l'écriture, donc j'essaye de deviner, une grande partie des véhicules soumis à cette interdiction vont perdre leur valeur ou la moitié de leur valeur. Alors ça, c'est extrêmement juste. Il va y avoir, si cette mesure ne peut pas être arrêtée à temps, un impact extrêmement grave sur le marché de la voiture de collection et sur le marché de la voiture ancienne. Parce que là, on peut... Alors encore, la voiture de plus de 30 ans, bon, il y a la carte grise de collection, elle est relativement préservée. À supposer que les choses ne dégénèrent pas. Et ça, c'est pour ça que je parle d'un combat national désormais. Mais là où il y a un vrai problème, c'est les voitures qui ont entre 20 et 30 ans. Parce que celui qui a une Porsche des années 95, celui qui a une Ferrari de la même époque, celui qui a une Rolls Silver Spirit ou Silver Seraph, celui qui a une Bentley, une deux chevaux, celui qui a une Bentley Turbo R, Là, sa voiture, non seulement il peut plus rouler avec, il peut pas avoir de carte grise de collection, mais il veut la vendre, elle vaut plus un clou. Parce que qui va aller acheter? Déjà, c'était difficile de vendre une Rolls Silver Spirit parce que la forme est un peu lourde. Enfin, je dis pas ça pour contrarier mon ami Tuzet qui en a une, mais c'est une Bentley. Bon, ce sont ces Bentley qui ont une forme, bon, typique des années 90, mais ça viendra à la mode un jour. Pour le moment, c'est vrai que c'est pas très facile à vendre, on les trouve à des prix très intéressants. Mais aujourd'hui, qui va aller acheter ça? Alors là, bon conseil, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous rêvez d'une Rolls d'il y a une quinzaine d'années, ou d'il y a 20 ans, 25 ans, vous rêvez d'une Ferrari, vous rêvez d'une Porsche, bientôt, frottez-vous les mains, vous allez pouvoir, à Paris, avoir d'excellentes affaires, vous les remisez tranquillement dans un garage, et hop, quand elle a 30 ans, vous prenez la carte grise de collection, et vous êtes le roi du pétrole. Vous allez faire des coups fumants, hein, ça va être formidable. Bien, alors, on a énormément de questions. Un auditeur nous dit, vous parlez de carte grise de collection, peut-on sortir du département? Mais oui, bien sûr, depuis la réforme de 2005, je crois.
2009, c'est ce qu'on appelait...
Expliquez-nous les avantages.
La réforme du SIV, donc le système d'immatriculation des véhicules, à l'époque, les véhicules en carte grise de collection n'étaient pas soumis au contrôle technique, et donc, en revanche, ils étaient soumis à une restriction d'utilisation géographique.
Voilà.
Au niveau des départements limitrophes. Bizarrement, vous habitiez Lille, vous ne pouviez pas aller à Calais, mais vous pouviez rouler en Belgique. Bon, je vous passe les détails, c'est oui. Pas grave. Donc, en 2009, on a négocié l'acceptation du contrôle technique tous les 5 ans, qui est sujet d'ailleurs à caution, puisqu'il va disparaître, contre cette liberté de circuler.
C'est-à-dire que le contrôle technique repasserait tous les 2 ans?
Non, il va être supprimé pour tous les véhicules avant 1960, et nous sommes contre, mais bon, c'est pas grave.
Oui, bon.
Alors, on est pour les poids lourds parce qu'il n'y a pas de réalité économique. Mais pour répondre à la question de votre auditeur, il n'y a plus de restriction de circulation pour les véhicules en carte grise de collection.
Alors, je rappelle que la carte grise de collection présente 3 avantages majeurs. Le premier, évidemment, de permettre la libre circulation dans les zones de circulation restreinte. La deuxième, c'est le contrôle technique tous les 5 ans au lieu de tous les 2 ans, et peut-être même plus de contrôle technique. Et la troisième intérêt, c'est sur le terrain du droit des assurances. En cas d'accident grave, vous demeurez propriétaire de l'épave, ce qu'à Dieu ne plaise, naturellement.
Oui, ça...
Mais imaginez qu'un poids lourd vous rentre dedans, votre Ferrari est détruite, eh bien, vous êtes indemnisé, mais vous restez propriétaire de l'épave, alors que si vous avez une voiture en carte grise normale, ça c'est l'inconvénient, je crois que l'assureur...
C'est ce qu'on appelle les cas du véhicule gravement endommagé et du techniquement irréparable, économiquement irréparable. En carte grise normale, on vous saisit le véhicule, on vous saisit le titre de circulation, on vous supprime du fichier des cartes grises. Terminé, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. En carte grise de collection, personne ne touche à votre bien.
Voilà, donc ça c'est un avantage aussi. Alors un auditeur nous dit, qu'en est-il des personnes qui conduisent des 2 chevaux et des 4L à la campagne? Ben, évidemment, alors cette loi va s'étendre à la campagne? Évidemment non, on n'en sait rien. Mais comme il y a un risque des extension que nous avons dénoncée et contre lequel nous sommes insurgés et contre lequel nous allons lutter tous ensemble, il est évident que justement, pour permettre à tous les gens qui sont à la campagne de continuer à utiliser, soit par utilité, soit par plaisir, de vieilles automobiles, ou de vieilles camionnettes, ou de vieilles mobilettes, parce que j'ai appris que les Solex étaient interdits aussi, parce que c'est des véhicules extrêmement polluants. Hein. Bien sûr, l'humanité a été décimée par les Solex. Hein. Non, c'est pas la peste, ni le choléra, ni Hiroshima, ni la guerre bactérienne, mais les Solex. Ah bah voilà, ça, il fallait le trouver ça aussi. Les Solex sont gravement nuisibles à la santé, a dit quelqu'un de la mairie de Paris, paraît-il. Voilà, alors bon, bah oui, il faut bien sûr éviter à tout prix que ça ne dégénère, et c'est important de mener un combat national. Oui, Jean-Baptiste Tuzet de Radio Crooner.
Alors, je voulais préciser de petite chose, avant de filer dans ma Panda de 1991, je voudrais juste dire, vous parliez tout à l'heure de Monsieur Filion, je me souviens avoir eu le plaisir, nous avions fait des photographies avec lui, car Crooner Radio avait engagé une voiture pour le Tour Auto, qui était une 4 chevaux Renault, qui avait déjà eu des performances dans les années 50 avec le pilote Jean Gameau, et bien sûr Adrien Mag, et effectivement il a l'air très sensible aux automobiles, anciennes. Ça c'était une première chose, donc croisons les doigts pour, en tout cas pour avoir son aide. La deuxième chose, c'est que je pense à un très très beau projet sur lequel nous allons participer, qui va être très très axé sur l'automobile ancienne et qui se déroulera du côté de Dijon, vous savez, sur la fameuse Nationale 6 que vous connaissez tous parfaitement, ouais, au niveau de la station Bel Air, et c'est ce parc qui va se créer en 2018, Vintage Bel Air, qui sera un parc qui immergera les gens dans les années 60-70, ouais, au rythme de toutes ces belles anciennes et entre autres de ces youngtimers.
Bien, cher Jean-Baptiste Tuzet, nous allons vous confier une mission qui va être difficile, qui va être d'aller chercher Madame Hidalgo avec une auto de collection et de la montrer. Voilà. Alors la Fiat Panda, je ne sais pas si c'est exactement ce dont elle rêve.
Je pense.
Je pense que la Cadillac de Castro serait mieux, mais enfin bon, on fera avec ce qu'on pourra. Hein. Il y a aussi peut-être les Rolls de Staline qui sont, paraît-il, garés dans les garages du Kremlin.
Soyons tendres avec les dames. Et je pense qu'elle a été, elle ne s'est pas.
Elle a sûrement eu une enfance malheureuse.
Mais non, je pense que plusieurs lobbies l'ont approchée, elle s'est laissée séduire pour une opération qui, à mon avis, n'aura pas de lendemain, mais on ne lui en veut pas.
Alors, il y a une question extrêmement intéressante qui s'adresse d'ailleurs au professeur Morin et d'un auditeur, Monsieur Nourisson, et il nous dit, est-ce que les pics de pollution arrivent essentiellement quand le vent est au nord-est, donnant un bel anticyclone en France, apportant les pollutions des centrales à charbon allemandes, qu'en pensez-vous? Eh bien, je crois qu'effectivement, il y a cet élément climatique qui est réel.
Oui, les pics de pollution particulières ont deux origines. Il y a effectivement le fait que l'anticyclone provoque une inversion de couche et que les polluants sont scotchés au niveau du sol et arrivent mal à se disperser au niveau de l'atmosphère plus haute. Et lorsqu'on est en régime anticyclonique, par définition, nous avons des vents d'est à nord-est, et ces vents d'est à nord-est, effectivement, apportent la pollution d'origine continentale, qui vient non seulement de l'Allemagne, mais aussi de Pologne et de Tchéquie et autres, où l'énergie électrique est produite au charbon, où l'on consomme beaucoup de carburants fossiles, et où l'industrie n'est pas aussi bien dépolluée qu'elle peut l'être sur le territoire français. Et en fait, on a une pollution d'origine géographique lointaine, à laquelle les interdictions de circulation en Île-de-France et au niveau de la ville de Paris ne sont pas capables d'apporter quelques modifications que ce soit en termes d'intensité. Donc en fait, cette pollution d'origine géographique lointaine, eh bien, elle ne s'arrête pas à la bordure de la ville de Paris, elle ne s'arrête pas à la bordure de l'Île-de-France, mais on voit très bien sur les cartes de pollution que effectivement, c'est tout le nord de la France qui est touché par cette origine anticyclonique et un régime de vent d'est à nord-est.
Mais pourtant, le nuage de Tchernobyl avait évité la France.
C'était arrêté à la frontière, mais malheureusement, on a quelques indices au niveau des champignons particulièrement.
C'était faux, alors.
Qui montrent que les douaniers n'ont pas bien fait leur travail à la frontière de l'est de la France et qu'il y a eu quelques passages inopinés d'éléments radioactifs dont on a retrouvé les traces.
Mais là, on sait très bien qu'avec les mesures d'interdiction de la mairie de Paris, les particules fines vont s'arrêter au périphérique. Mmh. C'est bien connu.
Bien
parce
sûr.
Qu'elles respecteront, bien sûr.
Merci pour les banlieusards.
L'ordre
républicain. Merci pour le Grand Paris.
Alors, un auditeur nous dit que notre sujet est judicieux, qu'on a bien fait de le traiter, et oui, je pense que c'est un sujet brûlant. Il dit, est-ce que ce n'est pas inique pour les véhicules de plus de 30 ans, entre autres, comme si on interdisait aux personnes de 100 ans et plus de fumer pour réduire le tabagisme et les effets sur la santé, mais tout à fait juste. C'est ce qu'on disait au début de cette émission, c'est ce totalitarisme doux et diffus qui veut prendre le contrôle de votre vie privée. Moi, on me demande, je fume le cigare, on me dit, mais depuis quand fumez-vous? Et je réponds toujours, depuis que c'est interdit. Parce qu'en effet, avant, je fumais occasionnellement, mais j'y pensais pas, j'achetais pas de cigare, et quand j'en avais envie, il était trop tard, et bon. Du jour où ça a été interdit, ça m'a pris. Je me suis dit, il n'y a pas de raison que... Et je me suis devenu amateur de Havane, et maintenant je fais même partie d'un club de fumeurs de cigares. Et je fume chez moi. Et quand quelqu'un me dit qu'il ne supporte pas à fumer du tabac, alors j'allume un cigare. Non, mais j'exagère. Mais, parce que je suis quand même gentil. Mais j'avoue que ça fait l'effet contraire, évidemment. Là, on va dire une chose, c'est que ces mesures qui sont en train d'être prises, elles me pensaient un peu à l'euthanasie. C'est une espèce de volonté de détruire le passé. C'est insupportable. Alors, un auteur et à un auditeur qui est de notre avis aussi, M. Bataille, précise qu'il y a un auteur américain, un libertarien, qui a écrit un ouvrage. Alors, le libertarien, c'est Hans Hermann Hoppe, celui qui a écrit « La démocratie, ce dieu qui a échoué ». Et il a écrit aussi un autre ouvrage, la grande fiction, L'État, cet imposteur. Et oui, moi j'ai un côté libertarien, hein, qui me rapproche d'ailleurs de certaines personnes de gauche, c'est que je suis pas de gauche, mais je suis libertarien. Alfred de Vigny, notre grand poète, on lui avait demandé quel est le meilleur gouvernement possible. Il avait dit, c'est celui dont on entend le moins souvent parler et qui coûte le moins cher aux citoyens. Et ça, je crois qu'aujourd'hui c'est vrai, et on a vraiment, nous, le pire gouvernement possible, parce qu'on en entend parler tous les jours, et il nous coûte affreusement cher. Voilà. Bien, alors nous sommes encore vous êtes bien sur les ondes de Radio Courtoisie, l'émission Droit et Liberté, consacrée cette soir aux restrictions de circulation dans Paris, avec ici Jean-Baptiste Tuzet de Radio Crooner, collectionneur, Laurent Hériot, directeur de la Fédération Française de Véhicules d'Époque, Maître Éric Daucaumont, le célèbre avocat, le professeur Morin, chimiste et spécialiste des pollutions, et également Michel Romanet-Pérou, leader associatif qui a fondé l'UDELSIM, donc que vous trouvez sur alors l'Union, voilà, l'Union, non c'est pas l'Union des intellectuels, c'est l'Union des pour la défense de la liberté de circuler dans l'égalité et la mobilité, hein, voilà.
C'est
grosso modo c'est ça. Bien. Alors on nous reparle de nouveau du métro, qu'il y a aussi des fibres d'amiante dans le métro. Alors, est-ce que c'est vrai, professeur Morin, qu'il y a des fibres d'amiante dans le métro?
Oui, alors on trouve effectivement de l'amiante dans le métro, parce que l'amiante a longtemps fait partie des garnitures de freins. Ouais, ouais. Et donc, l'usure des garnitures de freins lors du freinage des métros, et il faut savoir que le métro freine assez souvent, puisque à chaque station, on a un freinage brutal, eh bien, a libéré de l'amiante dans l'environnement du métro. Ouais. Alors, il n'y a plus d'amiante dans les garnitures de frein du métro actuellement, mais il reste de l'amiante en suspension parce que on remet périodiquement à chaque passage du métro les particules qui ont sédimenté en suspension.
Et, ah oui, parce que bien sûr, ça brasse l'air.
Et ça brasse l'air. Donc il y a non seulement les particules qu'on vient de fabriquer lors du freinage, mais il y a celles qui ont été fabriquées de longue date et qui sont remises en suspension, et cela explique qu'effectivement on trouve encore de l'amiante dans les couloirs du métro.
Oui, voilà, donc mais c'est tout à fait intéressant. Alors, un autre auditeur nous dit, il y a énormément de questions, je ne pourrais pas tout lire, qu'on a du mal à comprendre cette vignette. Nous aussi, d'ailleurs, nous sommes en train de nous... Alors, comment rejoindre l'association des contestataires, coordonnées? Eh bien, c'est l'UDELSIM. Alors, peut-être, M. Michel Romanet-Pérou, pouvez-vous donner les coordonnées de l'association pour que nos auditeurs puissent vous rejoindre?
Avec grand plaisir. Vous avez un site qui est www.udelsim.com. Vous avez tout sur le site, donc n'hésitez pas à y aller et nous répondons à vos questions.
Alors, un auditeur nous dit qu'il ne faut avoir aucune confiance en M. Fillon, qui n'est pas passionné que pour ses propres véhicules, mais pas pour la France d'en bas, et que pendant, comme Premier ministre de M. Sarkozy, il a été le complice passif de la répression autophobe sécuritaire, notamment l'explosion des radars, menée par le président. Seul le Front National a fait la différence, et l'UMPS a toujours adopté une attitude constante pro-automobiliste, anti-automobiliste, si on veut dire. Hein. Alors je ne sais pas si Madame Le Pen. Attends, je vais vous laisser la parole.
C'est une vérité.
Je crois malheureusement que oui. Alors c'est vrai que quand même François Fillon est ami de la voiture parce qu'il est lui-même collectionneur et coureur.
Il est coureur. Il a des raisons d'être branché sur le sujet puisque je vous rappelle que son frère.
oui. n'est autre que le président de l'Automobile Club de l'Ouest.
Alors il vaut
donc,
quand même...
Effectivement, il y a, je pense qu'il y a une vraie passion oui. pour la course automobile. Oui. D'ici à en faire un défenseur voilà. des automobilistes oui. au quotidien, je crois que cet auditeur a malheureusement tout à fait raison. Oui. Pendant les 5 années où il a été le, oui. comme on dit, le collaborateur
oui, oui,
de
M.
Sarkozy. C'est, hein, c'est ça que, oui. comme ça que M. Sarkozy l'avait nommé. Il s'est contenté effectivement d'accroître la répression contre les automobilistes et notamment de doubler au moins le parc des radars existants. Donc personnellement, je n'ai pas une grande confiance en M. Fillon, nonobstant le fait qu'il s'affiche et qu'on le voit en photo de tous les 2 ans au Mans Classique à côté d'une voiture de course de collection, dans sa capacité à défendre ardemment la cause des automobilistes et notamment des passionnés de véhicules anciens, qu'ils soient de prestige ou qu'ils soient du peuple.
Alors, je vais vous donner mon sentiment. Je pense que M. Fillon, qui est un habile politique, va mesurer l'impact politique de ces mesures restrictives. Et si elles s'avèrent fortement impopulaires, à ce moment-là, il sera d'autant plus enclin à prendre la défense des automobilistes. Et je crois que ça, c'est un point très important. Certainement qu'il a plutôt de la sympathie pour les véhicules. Mais donc il est extrêmement important de mettre la pression sur le monde politique. Alors, quelle serait la position de quelqu'un comme Emmanuel Macron, à votre avis, sur la voiture de...
Dans la mesure où cet homme charmant, qui ouais. apparemment fait déplacer les foules, n'a pas encore de programme, je peux pas vous dire.
Ah, je voudrais que vous ayez, il n'a pas encore de voiture.
Non, il n'a pas de programme, mais bon, il a une passion pour tout ce qui est ancien, a priori. Et je constate simplement que, pour l'instant, son programme le plus politique, le plus social, n'étant même pas vraiment connu, et il paraît qu'il va pas tarder à le faire connaître, je ne sais pas du tout ce qu'il pense personnellement de la voiture, et donc je ne lui ferai pas une énorme confiance. Je vais vous dire une chose très claire, et à la limite, je voudrais qu'elle soit totalement apolitique, cette remarque.
Oui.
Ça fait pour ma part 33 ans que je suis avocat, et ça fait 40-45 ans que je m'intéresse à la défense des automobilistes oui. et de la liberté et des automobilistes, la liberté de circuler. Et que j'en ai fait ma passion, ma oui. vie, mon travail. Bon, ça m'a permis de voir, notamment à l'occasion de chaque élection présidentielle, oui. où un certain nombre d'associations n'hésitent pas à adresser des questionnaires à tous les candidats, en leur disant qu'est-ce que vous pensez de la politique de répression, de la politique de sécurité routière, quelles sont les pistes à explorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux, etc. Les motards en colère, bien sûr, mais pas que, beaucoup d'autres associations d'automobilistes, notamment, de collectionneurs ou pas collectionneurs d'ailleurs. Je constate juste une chose, c'est que, comme l'aurait dit, et je vais parler aux plus anciens des auditeurs, comme l'aurait dit Jacques Duclos, c'est blanc bonnet et bonnet blanc.
Oui,
c'est-à-dire qu'en fait, très clairement, après ça, moi, bien sûr, je suis pas un directeur de conscience, chacun fait ce qu'il entend, mais je dis que très clairement, il y a les programmes de l'extrême gauche jusqu'à la droite qui sont tous autophobes.
Ben, je sais.
Clairement.
Alors,
et seul le Front National a toujours eu, bien avant Marine Le Pen
d'ailleurs... Oui, parce que déjà Jean-Marie Le Pen avait toujours une position.
De...
Oui.
Et on le voyait, c'était très clair. Oui. Lors d'une élection présidentielle, il y avait les sondages qui étaient... Les réponses aux questionnaires qui étaient publiées. Et très clairement, il y avait tous les autres, et celui du Front National, qui disaient la répression a prouvé ses limites.
Oui, c'est vrai.
Regardez, en France, ça fait 3 ans que la mortalité remonte alors que les radars augmentent.
Juste, ouais.
Donc, il faut explorer d'autres voies. Il faut arrêter de désigner l'automobiliste comme étant
un bouc émissaire,
le grand Satan,
voilà.
un bouc
bien
émissaire,
sûr,
le père de tous les maux. Et il faut essayer, comme le font les Allemands avec leurs autoroutes à vitesse libre, comme le font les Anglais qui suppriment les radars maintenant et qui ont toujours eu 10 à 15 ans d'avance sur nous en matière de sécurité routière, qui ont créé les ronds-points bien avant et qui ont exploré des voies de sécurité routière et qui aujourd'hui disent les radars, ça ne sert plus à rien, on les enlève parce que c'est pas comme ça qu'on ira chercher les dernières vies que l'on peut
alors,
économiser en fait.
C'était Éric de Caumont, avocat bien connu, défenseur des automobilistes, infatigable défenseur depuis 33 ans, un tiers de siècle quand même, il faut le...
Ça ne nous rajeunit pas. Hein.
Alors, effectivement, Jean-Marie Le Pen est propriétaire d'une Rolls Silver Shadow, et Jean-Marie Le Pen a des voitures de collection. Maintenant, je ne sais pas si Marine s'intéresse aux voitures de collection, je crois qu'elle a d'autres chats à fouetter, que c'est pas son truc.
Louis Alliot, que j'ai rencontré plusieurs fois et qui est un absolument charmant, lui, je crois pas qu'il s'intéresse. Ils aiment beaucoup le bateau, tous les deux. Ils aiment beaucoup le bateau, mais ce sont des gens qui n'ont pas d'a priori, à mon avis. Donc là encore, on dit Fillon, on dit Macron, mais bien sûr, Marine Le Pen, c'est incontournable. Alors chacun, en fonction de ses relations et de ses entrées, pourra intervenir, parce que c'est pour le bien des automobilistes, au-delà d'ailleurs des préférences politiques des uns ou des autres, qu'on soit de gauche, de droite ou du centre. Là, quand on a une passion, ça transcende. Alors, je voudrais quand
si
même...
Si vous me permettez d'intervenir et de témoigner, j'ai eu le plaisir d'accueillir, puisque je m'occupe aussi des expositions historiques au Mondial de l'Automobile, donc le Salon de l'Auto, comme on dit, j'ai eu le plaisir d'accueillir M. Sarkozy, M. Fillon et M. Macron à différentes occasions. Oui. Clairement, M. Macron a une vraie sensibilité pour l'automobile, ainsi que M. Fillon. M. Sarkozy, il n'en a rien à foutre.
Ah bon, voilà. Alors, je voudrais demander à Jean-Baptiste
Tire pas sur un corbillard.
Voilà. Non, mais c'est un témoignage, c'est tout.
Merci, Laurent Hériou. Laurent Hériou est directeur de la Fédération française de véhicules d'époque. Alors, je vais laisser la parole à la fin, parce qu'on dans 5 minutes, on fait l'entracte. Jean-Baptiste Tuzet, vous qui êtes directeur d'une radio, Radio Crooner, et qui êtes passionné d'automobile, et qui participait à Rétromobile, qui va avoir lieu dans quelques semaines, à la Porte d'Orléans. Est-ce que vous allez, sur vos antennes, et dans le cadre de Rétromobile, mobiliser les foules des collectionneurs pour la défense de la liberté de circuler?
Oui, nous le faisons régulièrement, bien sûr sous la houlette de Michel, qui a fait une association pertinente et ultra rapide, bravo.
Ah, oui,
et évidemment, tout cela n'est que du plaisir. On ne peut pas, on le disait, aujourd'hui tout est interdit, et plus c'est interdit, et plus les gens veulent rêver et veulent du plaisir. Les émissions sur l'automobile à la radio, à la télévision sont pléthores maintenant. Les émissions sur l'automobile ancienne arrivent, et les gens ont besoin de cela. Donc je ne suis pas très inquiet personnellement. Et nous allons bien sûr faire ce qu'il faut, bien entendu.
Et à Rétromobile, vous allez faire une communication là-dessus?
Bien sûr, et le digital, vous savez, la communication digitale, et nous sommes passés maîtres avec ma radio Crooner, même si nous émettions de manière hertzienne, comme nos amis de Courtoisie, le digital est très important.
Et vous avez prévu une émission consacrée à ce sujet, comme celle-ci?
Oui,
sur
tous les samedis de 14h à 20h, Gentleman Drivers Rendez-vous, nous parlons entre autres de ce sujet, et on vous y entend d'ailleurs, mon cher.
Ah, bah écoutez,
parler de voitures anglaises.
Ah, parfait.
Mais ne dites jamais qu'une Bentley, qu'elle soit jeune ou vieille, n'est pas une belle voiture. C'est une magnifique.
Ah, mais j'ai jamais dit ça. Non, mais j'ai vaguement critiqué la ligne de certains modèles des années 90.
Je sais que vous le faites avec passion et avec plaisir.
Mais non, mais je ne veux pas le prendre mal. Bon.
Il n'est point d'éloge flatteur sans liberté de blâmer.
Exactement. Absolument, absolument.
Ouais. Alors, je pense que nous allons arriver à l'entracte. Il reste combien de temps? 1 minute, 2 minutes, voilà. Je vois encore des questions qui arrivent en masse, décidément.
Quel
nous
succès.
Sommes submergés sous les questions. Attendez, j'en lis une. À 85 ans, je n'achèterai pas de vignette et je roulerai quand même. Bah voilà, un homme qui est courageux. Qu'en est-il des voitures antérieures à 1995 qui ne sont pas de collection? Bah ça, on a déjà répondu. Antérieures à 96, elles sont dans cette catégorie intermédiaire qui n'est toujours pas réglée, qui est justement les voitures collectionnables, mais qui ne dispose pour le moment d'aucun... Alors, moi, j'avais suggéré des solutions, par exemple, une vignette, un droit peut-être de péage, de quelques euros par jour, pour avoir le droit de s'en servir. Il y a à étudier, il faut continuer le travail là-dessus, mais pour le moment...
Si vous permettez...
On a travaillé le sujet sur ce qu'on appelle
les young timers, avec la mairie de Paris, pour tous les véhicules, disons, entre 20 et 30 ans, et on était arrivé à la solution recevable, qui consistait à dire, dans le foyer fiscal, s'il y a un autre véhicule d'usage courant, s'il y a un abonnement Autolib, Vélib, ou un Pass Navigo, eh bien, on peut considérer que l'utilisation de ce véhicule Youngtimer est déjà en pré-collection. On est en train de travailler sur le sujet.
Ça, c'est bien. Voilà, encore une bonne initiative.
Dernière chose que je voulais vous dire, ce qui se passe à Paris, il y a effectivement une menace au niveau national. Nous sommes en train de travailler avec l'Association des maires de France sur
le
sujet.
Très bien. Écoutez, excellent initiative. Nous vous soutiendrons activement, toujours sur ces antennes et sur celles de Radio Crooner également. Et je vous ai dit de parler Crooner parce que on joue à le technicien qui me fait des gestes horrifiés. Mais comment est-ce qu'on traduit Crooner en français? Est-ce qu'il y a un terme synonyme?
To croon, susurrer, mais voilà, ça va mieux en le disant.
C'est celui qui chuchote.
Bien sûr, absolument.
C'est radio chuchotement.
Et voilà, et surtout n'oubliez pas d'installer des appareillages modernes, high-tech, dans vos voitures anciennes, pour passer de la vieille EFM au DAB qui arrive.
Entendu. Nous devons faire l'entracte. Merci infiniment.
Voici un message d'Henri de Lesquin, président de Radio Courtoisie.
Henri de Lesquin, vous écrivez régulièrement aux auditeurs pour les informer de la vie de Radio Courtoisie. Pourquoi ?
Vous savez que Radio Courtoisie est une grande famille. Il est bien normal d'écrire aux membres de sa famille. Bien entendu, je m'adresse aussi aux auditeurs et en priorité à l'antenne. Mais cela ne suffit pas, je crois. J'ai besoin d'écrire aux auditeurs pour établir avec eux un lien permanent, plus fréquent, et pour compléter ce que je dis oralement. Radio Courtoisie est un miracle permanent parce que c'est la seule radio qui vit exclusivement de la confiance de ses auditeurs, sans la publicité, sans l'État, sans les collectivités locales. Alors bien sûr, quand on s'adresse aux membres de sa famille, on leur parle des difficultés qu'on rencontre, et donc il m'arrive, c'est vrai, certains diront plus souvent qu'à mon heure, d'écrire aux auditeurs pour leur faire part des difficultés financières ou techniques que nous rencontrons. Mais je leur parle aussi des espoirs que nous avons. Et ces espoirs aujourd'hui sont très grands. Je crois que la radio est aujourd'hui au seuil d'une révolution technique qui est au moins aussi importante que celle qui, en 1981, a vu la naissance des radios libres avec l'apparition de la modulation de fréquence. Le développement du numérique, de l'internet, de la radio numérique terrestre fait qu'aujourd'hui, le paysage radiophonique, pardonnez-moi de l'expression, est en train de changer. Et aujourd'hui, si nous voulons que Radio Courtoisie non seulement vive, mais se développe, atteigne toujours plus de gens et notamment soit encore mieux écouté par les jeunes générations, mais nous avons besoin de la solidarité, de l'amitié et de l'affection des auditeurs.
C'était un message d'Henri de Lesquin, président de Radio Courtoisie. Si vous aussi vous souhaitez être informé de la vie de Radio Courtoisie, envoyez-nous votre adresse au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris ou téléphonez au secrétariat au 01 46 51 00 85.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, en DAB+, et sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe de l'Ouest et l'Afrique du Nord, par satellite, sur CanalSat et TNTSat, et pour le monde entier, par Internet, sur Radio Courtoisie. Votre antenne, c'est Radio Courtoisie.
À 21h tout à l'heure, le bulletin de réinformation. À 21h30, le libre journal Le Monde de la Foi, dirigé par Jean Christaki de Germain. Enfin, à 23h, les nuits musicales en compagnie de Benoît avec la 9e de Beethoven. Et puis tout de suite, toujours en direct, la seconde partie du libre journal du droit et des libertés, dirigé par Olivier Tournafond. Merci d'écouter Radio Courtoisie et bonne soirée. Il est très précisément 19h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal du droit et des libertés dirigé par Olivier Tournafond, diffusé en direct mardi 17 janvier 2017 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé mercredi 18 dans la